Nicolas, aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du CKB Show. Aujourd'hui nous enregistrons l'épisode 23 et comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas, comment vas-tu?
Salut Nico, mais on n'est pas tout à fait comme à l'accoutumée aujourd'hui puisque nous ne sommes pas deux mais trois.
Nous sommes trois évidemment et je vais le présenter si tu me permets. Tu te souviens Thomas, on avait dit qu'on allait... on allait demander à nos auditeurs d'intervenir de temps en temps sur une CKB Show puisque vous participez à notre réussite, donc il est intéressant de vous faire participer aussi à la création d'épisodes. Et aujourd'hui on est accompagné d'un auditeur du CKB Show, un des premiers auditeurs, hein, c'est peut-être même le premier après ma mère, et un passionné des Chromebooks et des Chrome OS. Donc, pour ne pas le citer, vous l'avez déjà entendu d'ailleurs, il était avec nous lors de l'enregistrement spécial de la conférence Google, c'est le bien nommé Thierry. Bonjour Thierry, comment vas-tu?
Bonjour à vous, ça va bien, merci.
Est-ce que tu es heureux d'être avec nous aujourd'hui?
Absolument. C'est un plaisir.
Ça, c'est parfait.
Merci pour l'invitation.
Ça nous a fait plaisir également et on est très content de t'avoir avec nous et surtout que tu nous écoutes et que tu prêches la bonne parole autour de toi. Alors aujourd'hui on va parler rapidement, je vais faire un petit tour de table de tout ce qui va être dit parce qu'il y a énormément de choses, parce que l'actualité des Chromebooks, de Chrome OS est toujours énorme et on n'a pas 50 ans, on va essayer de se tenir au 1 heure, n'est-ce pas Thomas?
Ouais.
Alors personne ne le voit mais j'ai fait un clin d'œil. Hein. Donc, pour dégrossir tout ça, nous allons parler de Google Assistant et de son arrivée sur les Chromebooks et de ses améliorations sur tous les appareils. Et on va parler d'appareils qui fonctionnent avec Google Assistant. Évidemment, il n'y a pas un CKB Show sans Chrome OS, ni Linux, ni Android maintenant. On va peut-être parler de Mac, hein, avec un peu de chance. Ensuite, on parlera de quelques applicatifs et de matériel ainsi que de sécurité. Je crois que j'ai fait le tour rapidement, mais c'est à peu près tout ce qu'on va dire. Alors, ça paraît simple, mais c'est énorme. Vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Rien à dire pour ça. C'est bon, la présentation, en effet?
Ouais, non, tu dis une petite parenthèse. Tu dis on va parler de Mac. Bon, je pense qu'on ne parlera pas beaucoup de Mac aujourd'hui, mais oui, on enregistre juste après la deuxième keynote annuelle de Apple. Donc, ouais. Donc voilà, on n'a pas trop pris le temps de disséquer les annonces, mais restez dans le coin, on en parlera probablement au prochain épisode.
Ouais, voilà, de toute façon, ça ne sert à rien d'acheter. Mac, c'est trop cher. Alors, sans transition aucune, on va parler de Google Assistant, parce que vous le savez, Google Assistant, c'est notre petit assistant personnel que nous avons sur notre bureau sous forme de Google Home, à la maison, partout, dans toutes les pièces, n'est-ce pas Thomas? Mais également sur nos smartphones, et depuis un an maintenant, sur nos Chromebooks. Alors, pour l'heure, un seul Chromebook avait accès au Google Assistant, c'était le Pixelbook via une touche dédiée. Mais depuis peu, nous avons entendu parler de l'arrivée très très prochaine, puisque c'est déjà sur le mode Canary que Google Assistant est arrivé. Vous en avez entendu parler, Thomas, toi qui as un Pixelbook, est-ce que tu t'en sers? Et est-ce que tu penses ça utile pour tous les autres utilisateurs?
Pas vraiment en fait. Je suis désolé, je casse un peu ton effet. pour être très honnête, bah comme tu l'as dit, en général le Pixelbook j'utilise beaucoup à la maison et bah du coup comme tu disais tout à l'heure, j'ai des assistants à portée de voix un peu partout, des Google Home à portée de voix un peu partout. Et donc du coup l'idée d'utiliser assistant directement sur le téléphone quand je suis à la maison ou sur le Pixelbook, c'est pas forcément un usage que j'ai beaucoup. J'ai pas de stylet. Il y a une fonctionnalité qui arrive aussi qui permet de, en gros, entourer quelque chose à l'écran et avoir Google Assistant qui fait une recherche sur l'image que vous venez d'entourer. Donc ça, c'est pas quelque chose que j'utilise. Donc pour être très honnête, pas beaucoup, mais ça reste une bonne idée. Je pense qu'il y a, si ça me sert pas à moi, ça servira à d'autres personnes.
Peut-être à Thierry, on sait pas. Peut-être que Thierry, tu as du Google Home chez toi ou pas?
Oui, j'ai effectivement deux Google Home. Après, je serais un petit peu aussi de l'avis de Thomas. Pour autant, pour prendre un amalgame, les stylets, au départ, je me demandais l'utilité des stylets. Et maintenant que j'ai un équipement avec un stylet, là, je me rends compte de l'intérêt. Donc, très certainement, si Google a mis ça en place, c'est pas pour rien. Et je ne serais pas étonné que d'ici quelques semaines, si on repense à la période actuelle, on se dit ok, on s'est juste pas rendu compte de l'intérêt.
Ben c'est ça, hein. C'est pas Steve Jobs qui disait un truc, oh merde, tiens, tu vois, j'ai réussi à en glacer, hein, quand même, que ne vous souciez pas de ce que l'utilisateur veut, il ne sait pas encore ce qu'il aura besoin. ou un truc comme ça.
Ouais, tu paraphrases, mais ouais, c'est un peu ça l'idée.
Voilà. Mais je ne suis pas Steve Jobs. Hein,
Il l'a dit en anglais, de toute façon, je pense.
Anglais du tout, donc comme ça, c'est réglé. C'est une traduction Google Translate.
Traduction libre.
C'est la même que tu utilises pour le chinois. Ou. bref, donc moi perso, je trouve ça très intéressant. Alors, pas forcément dans mon bureau, parce que là, j'ai un Google Home juste à côté de moi, pas dans mon salon. Enfin, je suis comme vous, j'en ai partout. Par contre, tout le monde n'a pas de Google Home partout. Et ça peut apporter d'autres utilisations. Typique, devant mon ordinateur, dans une pièce où je ne l'ai pas, par exemple les toilettes, et je veux balancer, je sais pas, je veux voir qui vient de sonner à ma porte, et ben, grâce à ça, je vais pouvoir le voir sur mon écran de Chromebook, par exemple, grâce à mes objets connectés et tout autre produit connecté à mon Google Assistant. Moi, je trouve ça plutôt intéressant. Vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas la touche Google Assistant, un raccourci clavier, comme je l'avais dit, souvenez-vous, il y a quelques épisodes, il y a un raccourci clavier qui fait son apparition, qui sera la touche recherche plus A, donc qui permettra d'appeler Google Assistant ou le fameux OK Google.
Exactement.
Voilà. En parlant de Google Assistant, ils ont fait une amélioration sur l'option Google Family, et ça, c'est Thierry qui me l'avait amené, et je trouve ça génial. Thierry, est-ce que tu veux nous en parler, ou est-ce que c'est moi qui vais parler tout l'épisode?
Bon, je peux en parler un petit peu avec plaisir. En fait, j'avais vu passer des articles, je crois, Nico, tu en avais parlé également, que les enfants s'approprie assez facilement les Google Home. Je le vois à la maison avec un enfant de 7 ans, où effectivement, il nous fait finalement découvrir des choses auxquelles on n'aurait même pas forcément nous pensé.
Ils sont plus malins.
Et donc, Google a bien entendu vu le filon arriver et a effectivement mis en place différents partenariats. Et un des exemples, par exemple, c'est avec la société Lumi. Donc, Lumi est connu potentiellement pour ce qu'ils appellent la boîte à histoire, qui est comme une espèce de petite autoradio pas connectée du tout, où l'enfant choisit un personnage et puis une situation, et ça génère automatiquement une histoire. Google a donc fait un partenariat avec cette société qui permet directement, depuis la Google Home, de dire, donc avec le mot-clé que je ne dirai pas pour pas activer toutes les Google Home de tout le monde, parler avec Lumi, qui m'en parle la voix. Lumi va dire avec quel, va demander avec quel personnage l'histoire doit être créée. Donc évidemment, il y a des propositions qui sont faites, dans quel contexte, etc. Donc l'enfant choisit les paramètres et il y a une histoire qui est générée automatiquement grâce à cela.
Ça. Et c'est disponible en France, hein, c'est ça qui est génial. Donc, on peut enfin se passer de raconter des histoires à nos enfants pour qu'ils aillent se coucher et nous, tranquillement, regarder la télé, une série qui n'est pas dédiée aux enfants. Ça, c'est génial, non? Ça nous fait gagner du temps. Il y a d'autres partenariats, il y a Souffleur de rêve, la radio Pomme d'Api, et puis les animaux de la ferme. Alors, tu peux jouer avec les animaux de la ferme, je crois. Donc, c'est plutôt sympa. C'est des petites interactions qui ont été créées en français pour le Google Assistant. Thomas, tu ne joues pas avec, j'imagine.
Le Google Assistant ou Lumi? Lumi.
Souffleur de rêve et compagnie.
Non, j'avoue, j'ai pas encore l'âge ou j'ai passé l'âge, je sais pas. mais j'étais en train de regarder le site pendant que vous en parliez, donc c'est LU1N2I. Et ouais, c'est une boîte française. Je connaissais pas du tout le concept, c'est vraiment très très intéressant. Et pour les gens qui sont un petit peu réfractaires à l'idée de donner quelque chose de connecté à leurs enfants, figurez-vous qu'en fait c'est pas connecté comme le disait Thierry. Ça n'utilise pas le Wi-Fi, il n'y a pas d'écran. Et en gros, vous chargez ou vous préchargez les histoires à l'avance sur votre ordinateur et vous passez le petit appareil qui est, comme tu disais, une espèce de petite radio toute jolie, toute mignonne. Et après, c'est complètement déconnecté. J'aime beaucoup le concept, très intéressant.
Google Assistant, hein. Quand tu utilises Google Assistant, il est forcément connecté à
Internet. Alors, c'est vrai, oui, c'est vrai. Là, je suis sur le site et il montre donc cette espèce de petite boîte.
Mais moi, franchement, je trouve ça génial. Je l'ai utilisé dès le premier jour de l'annonce avec mon fils qui a détesté, hein, évidemment. Mais on y retourne de temps en temps et il commence à apprécier le truc. Alors moi, il est beaucoup plus jeune. Hein, les histoires trop complexes, ça lui plaît pas. Il faut que moi, s'il n'y a pas Sam le pompier ou les pattes patrouilles, ça marche pas. Hein, donc du coup, c'est compliqué. Mais dans la même histoire, et là par contre, malheureusement en France, on n'y est pas. Google a signé un partenariat avec Disney, avec une, et ça apporte une fonction qui s'appelle Read Along. Et ça, c'est Thomas, tu voulais nous en parler parce que ça, tu kiffes, je crois. Ça te fait rêver, en tout cas.
Ouais, alors bon, c'est pareil, je suis pas forcément dans la cible. Mais, alors donc, Read Along, je sais pas comment est-ce qu'on traduit ça en français, mais ici, aux États-Unis, il y a la tradition des sing-along. Donc, sing-along, c'est on va au ciné. Je pense que ça existe en France aussi, mais on va au ciné voir un Disney. Et en fait, comme au karaoké, les paroles des chansons s'affichent à l'écran. Et donc, au milieu du film, dans la salle de cinéma, tout le monde se met à chanter. Donc, ça, c'est les sing-along. Et donc, l'idée du read-along, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas forcément au cinéma, c'est plutôt à la maison. Et ça vous permet d'avoir... comment dire, la bande-son de l'histoire que vous êtes en train de raconter à votre enfant. Donc, vous commencez, vous prenez... donc, pour l'instant, il y a 5 bouquins qui sont supportés. Je crois que c'est ça va de Moana à Coco. Enfin, c'est les derniers Disney, en gros. Donc, vous commencez à lire l'histoire. Et au moment où vous commencez à lire l'histoire, vous activez Google Home. Et Google va vous mettre la bande-son en fond, donc vous allez avoir les sons et les musiques adaptées au passage que vous lisez, mais là où ça devient vraiment très très intéressant, c'est que c'est synchronisé avec votre lecture. Donc ça veut dire que si jamais vous voulez revenir en arrière parce que il y a une chose qui a pas été très bien comprise par l'enfant ou il a envie que vous lui relisiez un passage, et ben du coup la musique va se resynchroniser avec l'endroit où vous êtes dans le livre. Voilà, donc c'est assez, enfin la vidéo qu'ils ont fait a l'air assez magique, parce qu'ils rajoutent aussi des effets visuels derrière qui sont forcément pas là quand vous lisez le, enfin c'est pas comme si il y allait y avoir des petites feuilles magiques qui allaient automatiquement apparaître dans votre appartement quand vous commencez à lire l'histoire. Vous regarderez la vidéo pour comprendre de quoi je veux parler, mais malgré tout on est quand même dans une étape supplémentaire en termes d'interactivité pour les enfants avec Google Home.
Ça amène peut-être à un autre produit, tiens, c'est une belle transition, merci Thomas. Ça nous amène peut-être au Google Home Hub. Est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité, avec cet écran, d'avoir des belles images, justement, qui apparaissent lorsqu'on lit nos histoires ?
Quelle transition ! Ouais, alors, donc, comme tu le dis, en fait, j'ai commandé, comme tu le disais tout à l'heure en introduction, la dernière fois qu'on vous parlait dans les oreilles, c'était pour... La keynote de Google, enfin la présentation Made in Google, avec Thierry d'ailleurs. Et donc, aussitôt après la fin de la présentation, je me suis commandé le Google Home Hub, qui a mis un petit peu de temps à arriver, mais que j'ai reçu hier soir, donc avec lequel j'ai joué un petit peu hier soir en arrivant à la maison. Donc, j'en suis très très content. Vous avez pu commencer... Vas-y, ouais, je sens qu'il y a une question.
Je viens de recevoir la newsletter de la keynote Apple.
Ah, parfait. Bah, écoute, tu fais bien de m'interrompre pour me dire ça, dis donc.
Ouais, je suis désolé, non, je ne voulais pas t'interrompre. J'ai vu, je suis tombé juste sur le prix du MacBook Air.
Ouais, d'accord, d'où la réaction affolée. Je pensais que tu voulais parler, en fait, ça, c'était juste un gasp d'effroi. Donc du coup, le Google Home Hub, pour l'instant, c'est génial. J'adore. C'est vraiment exactement tout ce qu'on pouvait reprocher à Google Home. Le fait que, de temps en temps, on sait pas exactement quoi demander ou on sait pas exactement pourquoi il comprend pas ce qu'on lui demande. En fait, je pense que le Google Home Hub va vraiment résoudre ces problèmes-là en apportant le retour visuel, en fait, de l'écran. Pour vous décrire un peu l'appareil, si vous l'avez pas encore vu, imaginez une tablette Nexus 7. Donc vraiment une petite tablette, hein. C'est vraiment beaucoup plus petit que ce qu'on pourrait imaginer. C'est plus gros qu'un Note, Samsung Note, mais pas tellement plus gros. Qui a été posé sur un Google Home qui aurait été un petit peu aplati sur l'arrière. Donc le son, c'est comparable au son du Google Home. Donc on a un son de très très bonne qualité, meilleur que le Google Home Mini. L'écran est très très bonne qualité. On n'a pas de caméra en frontale. Je pense qu'il y a eu.
Ça, c'est dommage.
Ouais, d'un côté c'est dommage, d'un autre je pense que Google cherche d'une part à réduire les prix et j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi il y a un problème de confiance et toutes les questions de confidentialité et de vie privée en ce moment font que le climat est peut-être pas à mettre une caméra sur un truc qui est posé sur votre table de chevet ou dans votre cuisine. Ou en tout cas, les gens réfléchissent à deux fois et je pense que c'est une alternative qui va, à mon avis, séduire un certain nombre de personnes parce qu'il n'y a pas de caméra. mais à la place, en fait, on a un écran, un capteur d'ambiance visuelle, enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut décrire ça, qui fait que l'écran va adapter la couleur et même adapter la luminosité et même le ton des couleurs, d'après ce que j'ai cru comprendre, à votre environnement. Donc, si c'est une chambre, par exemple, et que c'est la nuit, l'écran va devenir quasiment noir. Au contraire, si c'est un endroit qui est très éclairé, et ben là, pour le coup, l'écran va avoir, la luminosité va être poussée au maximum.
Après, il y a des concurrents qui lancent un produit avec une webcam intégrée.
C'est vrai, mais ces produits-là existent. Enfin, cette gamme de produits existe aussi chez Google. Tu vois, rien ne t'empêche d'acheter un Google Home Display de chez Lenovo, un Google Smart Display de chez Lenovo ou JBL. Donc, je pense que cet appareil-là est un petit peu la version vie privée sensible. J'arrive plus à parler français. la version en fait qui s'adapte à votre vie privée et qui respecte un peu plus votre vie privée que les autres appareils. Et juste ce que je voulais ajouter aussi, c'est que je pense que le fait de pas avoir de caméra, ça permet d'avoir un placement prix très très compétitif, puisqu'on est à $149, donc c'est très abordable. Et du coup, on est quasiment au même prix que le Google Home au départ.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça. On est sur un produit super intéressant. Et est-ce que tu as une interaction? Donc, c'est un écran tactile, tu as une interaction dessus, tu peux appuyer sur des boutons, j'imagine. Enfin, ils ont pensé une interface pour ça.
Ouais, alors, donc, du coup, ça utilise l'interface, je crois que ça s'appelle Smart Display UI ou quelque chose comme ça. Et c'est, ça utilise le Chromecast, pardon, derrière. Donc, en fait, c'est pas Android, c'est assez compliqué à décrire. En fait, c'est assez compliqué en termes de raisonnement. C'est pas du Android, mais c'est du Android Things. Donc, c'est la version d'Android sans l'interface graphique pour les appareils connectés. Et malgré tout, par-dessus, ils ont plaqué l'interface Smart Display UI, qui est un dérivé de ce qui a été utilisé pour les Chromecast. Donc, vas-y, ouais.
Certains avaient parlé peut-être de Fuchsia OS dessus.
Je pense que c'est peut-être l'horizon vers lequel ils tendent, mais je pense pas que ce soit à proprement parler Fuchsia OS. Après, peut-être qu'il va y avoir une fusion entre ce qui est Fuchsia OS aujourd'hui et ce qui tourne sur les Chromecast. Je t'avoue que je sais pas exactement, mais par contre il y a un truc qui est clair, c'est que vous ne pouvez pas installer d'application Android sur votre Google Home Hub. Par contre, l'application qui vient avec est très et en gros c'est un mélange entre ce que vous pouvez trouver sur un Chromecast et ce que vous avez sur votre application Google Home sur votre téléphone Android. Donc en gros.
Ça utilise peut-être les PWA, les Progressive Web App directement, non? Google veut le porter absolument, pousse ce format sur tous ses produits. Et peut-être que non, je ne sais pas, c'est une hypothèse que j'ai comme ça.
Je t'avoue que c'est une bonne question. Je n'ai pas encore trop regardé le développement, parce que j'aimerais bien m'amuser un peu à développer au moins des petits projets sur Google Home et sur Google Home Smart Display maintenant. Donc je t'avoue que je sais pas exactement, mais je pense que je sais pas exactement en fait. je sèche un petit peu.
De toute façon, c'était ton premier retour, tu viens de le recevoir, tu viens de le déballer, donc c'est déjà très bien qu'on ait quelqu'un qui puisse nous en parler et qui l'ait eu vraiment en main avec une utilisation normale. On passe à la suite parce que sinon je pense que tu partiras jamais en 10 heures, Thomas.
on enchaîne.
On va revenir sur un univers qu'on maîtrise beaucoup plus, qui est Chrome OS. Chrome OS, tout le monde en a entendu parler, hein, enfin en tout cas ceux qui écoutent le CKB Show. Et y a pas mal d'attentes sur les évolutions de Chrome OS, tout le monde en entend parler. Et je crois, Thierry, Thomas et tous les autres, vous attendez avec impatience Chrome OS 70. Alors Chrome OS 70 va apporter pas mal de choses et très axé tactile. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui est de plus en plus axé au bout du doigt en fait. Maintenant, tout va être, les icônes seront plus gros. Tout a été repensé au format Material Design, donc la même chose que vous avez sur votre smartphone Android à partir de la version combien d'ailleurs? Android 8, je crois, Oreo. J'ai peut-être un doute, peut-être même avant. Donc on va avoir une nouvelle interface qui est vraiment bien faite. Vous avez peut-être vu si vous suivez My Chromebook. Je fais les captures d'écran dès que j'en ai. Et je crois que Thierry, toi, tu l'utilises sur ta tablette, les versions tactiles, non, c'est ça?
Oui, alors effectivement, sur le Chromebook Tab 10, où on avait fait un article dessus il y a de cela quelques semaines, quelques mois, quand je l'avais reçu. C'est donc, on en reviendra plus en détail, mais la première tablette qui utilise le système Chrome OS, où effectivement j'attends avec impatience d'avoir la mise à jour de la V70, ça devrait donc arriver dans les jours à venir, puisqu'effectivement il y a quelques fonctionnalités encore qui sont pas parfaites, et en particulier le fait de pas pouvoir sélectionner de clavier alternatif. Donc, soit le clavier officiel Google, soit des claviers alternatifs comme SwiftKey, pour prendre certainement le plus connu. Et c'est vrai qu'au niveau de l'interface, là, je l'ai eu aujourd'hui sur mon Chromebook. Pour information, il y a quand même un peu plus de 3 ans. Donc, ça montre encore une fois le suivi par Google des différents produits. Et c'est vrai que cette interface-là me paraît plutôt bien réussie, et ça ne me donne qu'une envie, c'est d'appuyer plutôt que sélectionner ma souris. Mais comme mon Chromebook n'est pas tactile, du coup, je ne peux pas.
Effectivement, ça peut être embêtant. Alors, pour résumer un petit peu, on a le menu d'état, donc vous savez, le truc qui est en bas à droite avec l'heure, le réseau et tout ça. Maintenant, on va avoir une interface, un panneau panneau des notifications, je crois que ça s'appelle comme ça sur Android. Quand vous glissez vers le bas, vous avez toutes les icônes Wi-Fi, Bluetooth et compagnie. Donc la même typologie, la même charte graphique que sur votre smartphone Android. Les notifications sont de la même chose. Vous pouvez les supprimer en slidant de droite vers la gauche ou de gauche vers la droite, peu importe. Donc tout est intégré, pareil, donc dans le menu, dans le système d'exploitation, l'application fichier, pareil, qui a été repensée complètement pour être plus jolie, plus légère et à regarder, hein, pas forcément en termes de fonctionnalités, parce qu'ils nous ont rajouté pas mal. Mais il y a d'autres fonctionnalités que vous utilisez, que vous voyez moins, et je pense que celles-ci sont plus importantes encore. Ils ont intégré des nouveaux codecs vidéo, donc le format AV1, et Thomas, je sais que tu peux nous en parler.
Ouais, bah ouais, j'ai préparé. Donc ouais, non, pour la blague, c'est vrai que je posais pas mal de questions au sujet de ces acronymes un peu barbares pendant la préparation de l'émission. Donc maintenant, je peux vous dire que l'AV1, donc c'est, comme tu le disais, Nico, un nouveau codec vidéo. Donc ça a été créé par Alliance for Open Media, qui est en gros un peu comme d'habitude, comme les MPEG et compagnie, cette espèce de conglomérat de gens qui à la fois produisent des films mais qui aussi produisent du matériel pour décoder les films. Et donc l'idée, c'est de fournir une sorte de codec un petit peu comme le MP4 en fait, ou un peu comme là c'est là du coup que je m'embourbe un petit peu. En gros, l'idée, c'est de fournir un meilleur codec pour l'encodage et le décodage de vidéos. Donc pour la faire très très simple, ça va vous permettre d'avoir du streaming vidéo de très très bonne qualité avec une bande passante réduite ou un usage de données, un transfert de données un peu réduit et une meilleure compression vidéo. C'est ça, j'ai bien résumé?
Voilà, c'est ça, c'est tout simple. En fait, vous ne savez pas comment ça marche, mais c'est magique, ça marche. Et ça marche mieux qu'avant, c'est ça qui est bien. Donc, en fait, c'est un format qui est à comparer, à mettre à côté du format H264, 265, sauf que ce format-là est payant. Et Google participe à cette alliance pour faire un codec vidéo gratuit. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça permet d'avoir un meilleur rendu vidéo. C'est pas tout, parce que Google sécurise de plus en plus nos produits. Donc Chrome, évidemment, son navigateur phare. Et du coup, nos Chromebooks, nos Chrome Tabs, nos Chromebox et compagnie, en modifiant, en intégrant le format TLS 1.3, si je ne m'abuse. Donc c'est un format que tout le monde utilise ce système-là, parce que c'est à partir du moment où vous accédez à un site internet en HTTPS, ça fait appel à ce format de sécurité, donc ça protège vos données encore mieux. Je vais faire simple, hein, parce qu'il ne faut pas qu'on reste 10 ans, donc au niveau de la sécurité de vos données sur internet via le navigateur Chrome, et ben ce sera encore mieux. Une chose que j'en parle très souvent parce que je suis assez fan, c'est j'ai sauté une ligne, tant pis. Le Pitcher in Pitcher. Donc Pitcher in Pitcher, ça permet de regarder une vidéo tout en continuant à travailler sur un autre produit, que ça soit un fichier texte, un fichier doc, enfin n'importe quoi en fait, ou surfer sur internet, ça vous permet de continuer à regarder une vidéo dans un petit encadre en bas à droite, en haut à gauche, enfin comme vous voulez. Et cette fois une extension a été créée par François Beaufort, qui est disponible sur le Chrome Web Store. Et sur Chrome, vous avez déjà l'accès à ces fonctionnalités-là via YouTube ou pas mal de systèmes qui permettent, via une petite icône, un petit carré avec un carré plus foncé à l'intérieur, de positionner votre image où vous voulez sur votre écran. Donc moi, je trouve ça génial. Enfin, j'en parle tout le temps. Donc je ne sais pas si vous, enfin Thierry, tu utilises. Enfin, c'est quelque chose que tu aurais aimé utiliser ou tu t'en fiches complètement?
Non, c'est clairement quelque chose que j'aimerais utiliser. Et je me permets éventuellement, du coup, de faire aussi une transition. Comme tu as fait la première, je m'impose pour la deuxième, pour parler par rapport au Chromebook Tab 10, puisqu'effectivement, j'ai cet équipement, pardon, depuis quelques mois maintenant, parce que je l'ai obtenu fin août. Et une des choses qu'on avait discuté, que tu as émis du coup dans ton article, était justement la problématique du clavier, puisque du coup, on peut acheter bien entendu un clavier physique qu'on pourrait brancher en Bluetooth, mais à la base, cet équipement est une tablette, donc je pars du principe que je la laisse en mode tablette, et le clavier proposé de base, mauvais, les recommandations sont pas terribles, l'emplacement des touches sont pas terribles et ainsi de suite. Et donc effectivement, un meilleur support du mode tablette avec par exemple le clavier flottant, j'attends ça avec impatience pour combler justement une lacune de cet actuel équipement.
Magique, dans la prochaine version, tu l'auras.
Voilà. Et j'ai essayé encore de la mettre à jour, je ne l'ai pas encore, donc j'espère dans les jours à venir que ça arrivera.
Donc c'est vraiment super sympa, le clavier flottant aussi. Hein, donc on l'utilise déjà sur les smartphones, sur certains smartphones, vous pouvez sur le clavier Google Keyboard déjà l'avoir, cette application-là. En fait, on retrouve exactement la même utilisation sur nos Chromebooks. Alors sur un Chromebook, ce n'est pas forcément très utile, mais comme tu le dis justement bien, Thierry, sur une tablette, ça va être vraiment excellent. Thomas, toi, tu es comme moi, tu utilises un clavier physique.
C'est marrant d'ailleurs. Pendant que je vous écoutais, j'étais justement en train d'utiliser le clavier flottant sur le Pixel sans vouloir narguer Thierry. Mais ouais, j'étais en train d'utiliser le clavier flottant sur le Pixelbook. Et j'utilise aussi la fonction, comment est-ce qu'on appelle ça? La fonction tracée, en fait. Parce que le clavier peut être utilisé comme clavier, hein, et comme clavier flottant. Mais vous pouvez aussi, en gros, le mettre dans un coin de votre écran quand vous utilisez votre Chromebook en mode tablette. Et avoir cette espèce d'espace dans lequel vous allez tracer les lettres et vraiment écrire en écriture cursive. Et ça faisait longtemps que j'avais pas essayé ça. Et ça marche extrêmement bien. Alors là, j'utilisais en anglais, mais je suis vraiment impressionné. Enfin, j'arrive à peine à me relire et Google est quand même capable de détecter ce que je suis en train d'essayer d'écrire. Donc, c'est vraiment très, très bien, en fait.
Et donc le même principe, le système de clavier swap, tu as vu, il y a plusieurs méthodes, hein, donc le système incursif, le système de swipe, donc tu glisses tes doigts de touche à touche, donc tout ça c'est intégré dedans et ça marche vraiment super bien, et même en français, je te rassure. Bon, cela dit, c'est normal, ils commencent à envisager le marché français comme un marché porteur pour leurs produits, donc ils ne nous oublient plus.
Et on peut même tracer, je t'interromps, excuse-moi, on peut même tracer les émoticônes et faire des recherches d'émoticônes toujours dans le clavier. Donc c'est vraiment super.
Quoi ? Ouais. Ça marche du tonnerre de Dieu. Si on continue, Chrome OS aujourd'hui, ce n'est plus juste un système d'exploitation tout bête, comme peut l'être Mac ou Linux ou Windows, pardon, parce que maintenant il intègre Linux et Android dedans. Ça, vous le savez tous. Alors Android, je ne vais pas trop en parler parce que il y a quelques évolutions, mais pas plus que ça. Par contre, il y en a une grosse évolution pour l'avenir de nos Chromebooks, c'est le projet Crostini. Le projet Crostini est toujours en phase bêta. Donc, pour rappel, le projet Crostini, c'est c'est apporter les logiciels Linux sur Chrome OS, donc dans un container, enfin quelque chose qui ne nécessite pas un double boot ou un redémarrage de son ordinateur pour passer sur un autre système d'exploitation. Donc là, il suffit de lancer l'application, ou le logiciel en l'occurrence, pour que celui-ci fonctionne directement sur l'interface Chrome OS. Et sur la dernière mise à jour, donc la mise à jour 71 de Chrome OS, on a quelques évolutions assez intéressantes, puisque ça intègre 3 ou 4 nouvelles fonctionnalités. Une qui m'a bien plu, c'est la possibilité de tuer le terminal Linux en faisant un clic droit sur l'icône du terminal Linux ouvert et marquer simplement arrêter le terminal, puisque, je le rappelle, il ne faut pas tuer un terminal juste en cliquant sur la croix, ce n'est pas bon pour lui, il risque de mourir. Mais bon, faites-le si vraiment vous voulez le faire, hein, c'est votre produit après tout. Une autre fonctionnalité qui est sympa, cette fois dans l'application fichier, il est possible de partager un dossier entre Chrome OS et Linux. Il n'est plus nécessaire de copier-coller ou de déplacer son image, son dossier, sa photo, enfin ce que vous voulez, sur le dossier spécifiquement utilisé par Linux. Là, vous le laissez dans le dossier de téléchargement et votre logiciel Linux ira directement le chercher. Et ça, c'est vraiment sympa parce que ça évite énormément de manipulations. Je peux vous dire que pour essayer au quotidien, ça reste une gymnastique compliquée. Donc, cette mise à jour-là, elle m'a déjà bien aidé au quotidien. Et c'est vraiment, pour moi, une très, très belle avancée là-dedans. Enfin, 2 autres mises à jour. Une, on retrouve enfin comment on appelle ça, le truqueté, le contrôle ad-sup sur Windows, là, vu qu'il l'utilise tout le temps. C'est quoi, contrôle ad-sup? C'est le gestionnaire de tâches?
C'est ça? Gestionnaire de tâches, oui. Qui te permet de voir tous les processus.
Oui, tous les processus actifs ou ouverts en même temps. Et ben on a la même chose sur Chrome OS avec la touche recherche échappe. Et ben cette fois on voit les processus actifs de Linux et on peut les tuer comme ça si vraiment on est embêté. Alors ce qui est, pour l'instant je n'ai pas eu besoin, mais on ne sait jamais. Ça peut être utile. Et puis dans un avenir un petit peu plus éloigné, on va enfin pouvoir utiliser les périphériques USB avec les applications et logiciels Linux. Alors vous rigolez tous ceux qui maîtrisent Windows, Mac et compagnie. Mais ça n'était pas encore disponible sur Linux, sur le projet Crostini, et Google vient de l'implémenter sur la version 72 de Canal Canary. Donc, quelque chose qui va être encore mieux, puisqu'enfin, on va pouvoir se passer des fichiers à un autre ami en passant par un clé USB ou autre chose comme ça. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ces petites évolutions? Enfin, ces petites évolutions, ces évolutions, Thomas, par exemple?
Je pense que c'est un petit peu comme d'habitude. Je pense qu'en fait, c'est intéressant de suivre Chrome OS parce que c'est vraiment le système d'exploitation le plus incrémental qu'on puisse trouver. Il y a les systèmes d'exploitation, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. Ça fait Windows 95 existe depuis quasiment 25 ans maintenant. Je pense que c'est intéressant de voir en fait les étapes successives de Chrome OS parce qu'on a vraiment l'impression de revivre un peu en temps réel l'évolution d'un quelque chose qui était très 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 simple au début et qui est en train de devenir un système d'exploitation probablement les plus ergonomiques, ou en tout cas qui deviendra un jour probablement le système d'exploitation le plus ergonomique qu'on puisse trouver, quoi. Donc voilà, c'est un peu ce qui me vient à l'esprit. Je suis désolé, c'est une remarque très très générale et limite un peu philosophique, mais c'est un peu ce qui me vient à l'esprit quand je t'entends décrire toutes ces nouveautés.
Ouais, mais c'est de la philosophie, hein, clairement. Non, mais ce qui est assez bluffant. Enfin, je vais laisser la parole à Thierry. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thierry, de cette intégration de Linux, d'Android, enfin tout ça dans un seul système d'exploitation? Parce que je suis curieux d'entendre un poditeur qui nous écoute depuis la première, d'avoir ton retour là-dessus.
Justement, j'étais en train de me dire par rapport à ce que disait Thomas, jusqu'à il y a un an en arrière. J'utilisais mon Chromebook un peu comme les gens le décrivent quand ils n'ont pas beaucoup d'expérience, en disant c'est un navigateur web et du coup qui va très vite et où il n'y a pas besoin d'antivirus, de pare-feu, etc., ce qui est évidemment tout à fait vrai. Et au fur et à mesure des avancées de Chrome OS, mon ordinateur Windows, je ne l'utilise plus. On reviendra sur un sujet aussi sur pourquoi je ne l'utilise plus. Et en plus de cela, avec certaines facilités, je prends l'exemple de Linux. Pour avoir utilisé un petit peu de Linux il y a quelques années, les opérations n'étaient pas toujours simples. Et puis à chaque fois, il faut s'habituer à une nouvelle interface. Donc une personne qui passe de Windows à Chrome OS, il faut qu'il s'habitue à une interface. Il passe à Linux, il passe à une autre interface. et ainsi de suite. Mac, ça peut être la même chose. Or là, on a un environnement Chrome OS qui est en place, et au fur et à mesure, il y a des rajouts qui se font, mais toujours avec la mentalité Chrome OS liée au Material Design, etc. Et donc, ou en tout cas, mon ressenti, en tout cas, c'est que ça devient très simple à utiliser. Une application Linux qu'on installe, on la lance au même titre qu'une application Android.
C'est ça. On ne se soucie plus du tout d'où vient l'application. Elle est là, elle fonctionne, et peu importe avec quel système d'exploitation. Donc, ouais, mais c'est cool. Moi, c'est comme ça que je le ressens également. Hein. Et c'est pour ça que je suis très, très fan de Chrome OS et des Chromebooks. Si on continue un petit peu dans les évolutions, alors c'est un peu plus anecdotique, mais pour moi, c'est très, très, très utile. Il y a Google qui vient de faire une petite amélioration. Pourquoi je dis tout le temps petit ? Parce que ce n'est pas petit, en fait. Une amélioration sur la création de documents de sa suite G Suite. Thomas, tu veux nous en parler un petit peu ?
Oui, absolument. En fait, c'est comme tu dis, c'est petit parce que ça a l'air anecdotique comme ça, mais je pense que c'est un exemple un peu iconique de la capacité qu'a Google à faire des choses simples qui marchent et qui sont efficaces. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, il y a un nouveau, comment est-ce qu'on appelle ça ? Nom de domaine. Non, c'est pas les noms de domaine, c'est les extensions de nom de domaine. Je suis en train d'essayer de trouver le nom en anglais, mais j'ai oublié. Mais il y a un acronyme qui va avec, mais en gros, tous ces .com, ces .fr, c'est quoi, c'est Top Level Domain, TLD, c'est ça, non?
Ouais, un truc comme ça, je sais pas.
Ouais, et les points .us, les .fr, les .io, et donc il y a un nouveau .new, alors je dis nouveau, en fait, je sais pas s'il est si nouveau que ça, mais c'est vrai que c'est pas une extension de nom de domaine qu'on voit très souvent. Et donc Google s'est dit, bah tiens, nous ce qu'on va faire, vu qu'on a déjà doc.google.com et site.google.com, sheet.google.com pour les tableurs Excel, et ben Google se dit, on va créer doc.new, et quand vous faites une recherche, enfin quand vous tapez doc.new dans votre barre d'adresse, ça va vous ouvrir un document dans votre compte Google Doc. Mais ça va vous ouvrir un document vierge, et donc vous pouvez directement commencer à taper. Donc au lieu d'aller sur doc.google.com et de créer un nouveau document, de cliquer sur créer un nouveau document, etc., etc., vous faites juste doc. D'ailleurs, c'est docs au pluriel, docs au pluriel .google.com. Mais je pense que si vous faites doc.new, ça marche.
.new au singulier aussi.
Ouais, c'est ça. Doc.new au singulier, ça marche. Et comme c'est Google et qu'ils ont beaucoup d'argent, j'imagine qu'ils ont aussi pris doc avec un S, .new. Voilà, les deux marchent. Donc voilà. Donc quand vous faites ça, ça va vous ouvrir directement un document vierge que vous pouvez directement commencer à éditer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que t'en penses, Nico ?
Tous les articles que je fais sur My Chromebook commencent par un Google Doc, en fait. C'était chiant. Enfin, c'est chiant. Je suis toujours obligé d'aller enfin, après, je suis feignant, hein, mais en même temps, c'est le propre du génie, non? Non, bon, il y a que moi qui dis ça, d'accord. fallait que j'aille dans l'application. Alors, moi, je passe par l'application fichier d'Android de Chrome OS. Et j'ai créé un dossier My Chromebook, et ensuite, je crée un nouveau document à chaque fois. Alors, ça, c'est pas compliqué, c'est ce qu'on fait tout le temps, ça. On a toujours fait depuis que les systèmes d'exploitation existent, je dirais, les systèmes d'exploitation modernes existent, mais ça me fait perdre quelques secondes le temps d'aller dessus. Bah là, avec ça, c'est vraiment génial. En une seconde, j'ai ouvert un nouveau document sans me poser la question de comment il faut le faire, est-ce qu'il faut que j'aille dans fichier, créer nouveau, machin. Non, ça le fait tout seul, et ça me simplifie au quotidien ma vie. Alors, ça me fait gagner 3 secondes, c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de gagner, et vu le nombre d'articles que j'écris, ben, 3 secondes fois, je sais pas, j'ai un peu plus de 1700 articles d'écrits, donc ben, vous multipliez ça par 1700, puis ça me fait gagner un petit peu de temps quand même. Donc moi je suis assez fan, je l'utilise depuis le jour où ça a été mis en place, en fait.
D'accord. Et toi, ouais, Thierry, t'as regardé un peu ?
J'ai regardé, j'aurais qu'une phrase, je pense que c'est un petit pas pour Google, mais un grand pas pour les utilisateurs.
Je pense qu'elle va rester dans les annales, celle-ci.
Une phrase. Donc, Donc ouais, donc ça c'était pour cette histoire de New, et dans la même vague, donc alors j'ai essayé, je me suis dit, mais peut-être que Key.New ça marche aussi. Ben non, en fait ça marche pas. mais Google.
Ça marche pour la transition, par contre.
Ça marche pour quoi, tu dis?
Puisqu'en fait Google a changé le nom de Google Keep.
Ah, je t'ai marre. Bon, c'est une transition, transition fail. Excuse-moi.
Non, non, ça marche pour Google Keep. Donc Google Keep a changé son nom et a changé un petit peu son design, un peu plus material design, ouvre des accès. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce changement. Au niveau graphique, je le comprends en fait, parce que c'était un petit peu vieux, même si c'est pas si vieux que ça. Et puis donner des accès, un moteur de recherche un peu plus sympathique à l'intérieur, donc on peut rechercher des listes, des fichiers, des URL, des choses comme ça. Maintenant, ça c'est bien. Par contre, le nom, pourquoi ils l'ont changé ? Ben, je vous poserai la question juste après, parce que maintenant il s'appelle Keep Note. Pourquoi ne pas garder Google Note ? C'est la question que je me suis posée dans un article, et je vous la pose à vous, Thomas et Thierry. Donc, si vous avez une idée, dites-moi pourquoi ils ont changé leur nom.
J'avoue que je sais pas exactement. Peut-être que Keep en français ça marche pas très très bien, ou même en anglais d'ailleurs. Ils gardent le nom pour les gens qui ont l'habitude de Keep, mais ils rajoutent Note pour les gens qui se posent la question de ce que voudrait dire Keep. J'avoue que je sais pas, c'est un peu un mystère. Mais en tout cas, si vous l'utilisez, vous avez probablement vu déjà la mise à jour Material Design, et je pense que vous l'appréciez parce que c'est vraiment joli. Et si vous l'utilisez pas ou plus, jetez un coup d'œil, parce que c'est quand même un outil de prise de notes qui existe à peu près partout. Je pense que sur iOS, c'est une web app d'ailleurs, mais je pense pas qu'il y ait une app iOS. Mais si vous êtes sur Android, sur le web ou sur votre Chromebook, vous pouvez utiliser à la fois la version Android ou la version web. Je vous recommande vraiment de l'utiliser, parce que c'est vraiment une très très bonne app de prise de notes.
Thierry, Keep?
Keep, je l'utilise pour quelques petites notes rapides. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas d'intégration avec Google Assistant. Donc, à l'époque, je l'utilisais par exemple pour mes listes de courses. Et depuis, avec la Google Home, il fait d'une intégration avec un site propre à Google, shopping.google.com ou quelque chose du style. J'ai enlevé cette partie-là. À mon avis, je serais pas très étonné qu'à un moment donné, malgré tout, cette application disparaisse, parce que c'est vraiment pour des prises de notes très simples, mais il y a aucune mise en page possible. De vouloir, par exemple, faire une ligne avec ensuite des différents points. Je suis désolé, je pense que Thomas m'a contaminé, j'ai que le terme anglais qui me vient en tête, les bullet points. Les bullet points, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit en français. Thomas, c'est à la traduction.
Les puces de liste. C'est pas ça, non?
Si, c'est ça.
Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans Google Keep. Donc, prendre juste un numéro de téléphone ou quelque chose. Sur Chrome OS, et je crois, Nico, que tu avais fait un article sur ça il y a quelques semaines, où on peut prendre directement une note depuis l'écran de verrouillage de Chrome OS. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique, ça marche bien. Mais c'est vrai que je suis assez mitigé avec Google Keep et l'avenir de Google Keep.
On en parlait avant la présentation. Les
changements qu'ils font, c'est bien.
Vas-y, Nico.
On en parlait pendant la préparation, pardon. Aujourd'hui, avec Google Assistant, on n'a pas ce système de prise de notes. Je crois que c'est toi, Thierry, qui en parlait. Et pourquoi pas Google Keep, Keep Note pourrait devenir ce calepin, cette prise de notes, ce petit outil qui nous manque aujourd'hui, peut-être, non ?
Oui, mais il y a déjà les reminders, puisqu'on peut déjà demander à Google de nous rappeler de faire telle ou telle chose à telle ou telle heure, qui pour moi serait l'utilité justement de Google Keep, en tout cas pour la partie Google Assistant. L'intégration s'est pas faite, donc comme c'est un produit Google, je vois pas trop pourquoi est-ce qu'il l'aurait pas fait au début et il la ferait plus tard. Mais bon, dans tous les cas au moins, dans tous les cas, il continue à la maintenir à jour. Il continue à appliquer le material design et donc faire la même apparence que toutes les autres notes. À noter juste une petite chose, c'est que Google Keep est totalement indépendant de la partie Google Suite. Et de ne pas avoir un kit.new bien comme ça, c'est normal puisque ça, c'est une application à part chez Google.
Ouais.
Par contre, vas-y, Thomas.
Ouais, deux, trois petits trucs. En fait, je pense que ouais, Google Keep est un peu compliqué à prendre en main, mais je suis pas complètement d'accord avec toi, Thierry. En fait, par exemple, pour le formatage des notes, en fait, tu peux. Alors, c'est un peu compliqué, c'est un peu un truc de power user, mais si tu appuies sur Alt et Entrée, par exemple, tu peux faire des comment est-ce qu'on appelle ça en anglais, des puces de liste, c'est ça? Ça, par exemple, ça marche. Donc, c'est un format qui est limité. Je suis d'accord avec toi. C'est pas aussi avancé qu'un Google Doc. Mais malgré tout, tu peux, alors, soit créer directement des notes avec des puces intégrées, soit créer une note texte standard et faire un minimum de formatage à l'intérieur. Pour ce qui est des reminders, j'ai pas complètement vérifié, mais pour autant que je m'en souvienne, tout en bas, en fait, de chaque note, tu peux créer des reminders, tu peux dire, rappelle-moi cette note dans 3 semaines ou quand j'arrive à la maison. Et ces choses-là, je pense, sont intégrées avec Google Home. Donc, par exemple, la fameuse, la petite lampe, la petite diode blanche qui s'allume sur votre Google Home pour vous dire que vous avez un reminder. Et vous pouvez demander, alors, je sais pas comment est-ce qu'on dit en français, mais en anglais, c'est WhatsApp Google. Et du coup, Google va vous donner une update sur vos reminders. Et puis, de la même façon, quand tu dis que c'est pas intégré à Google Doc, en fait, quand tu ouvres un Google Doc, tu peux voir que sur le côté, alors, je sais pas si c'est par défaut, mais il y a une barre, en fait, qui t'offre un accès à Google Calendar et à Google Keep. Donc, tu peux avoir ta liste de Google de notes directement affichée dans ton Google Doc. Donc, je pense que c'est vrai que ces intégrations sont un peu cachées et c'est pas forcément super évident de les voir. Donc, il y a peut-être un travail de pédagogie à faire du côté de Google, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre d'intégrations qui sont là et qui permettent de tirer pleinement avantage de Google Keep. Il y a plein de choses qui pourraient être ajoutées, il n'est pas complètement abouti, mais je pense que c'est vraiment un outil à suivre, en fait.
Ben moi, du coup, je vais vous faire part de ma façon de voir pourquoi elles ont changé Google Keep par KeepNote. Parce que justement, comme tu le dis, Thomas, et je suis plutôt d'accord avec toi, Thomas, sur les possibilités que tu as avec Keep. Tu peux partager, tu peux avoir un travail de notes avec plusieurs personnes, tu peux partager ta note, et ça, je trouve ça intéressant. Tu l'as ensuite intégré avec Google Doc, par exemple. Tu prends, par exemple, quelqu'un qui t'a mis un lien dans une note, tu glisses sur Google Doc et ça te crée directement un raccourci. Donc, il est vraiment intégré à tous les outils de Google, je trouve. Et pourquoi ils ont changé le nom, à mon avis, après, c'est pas forcément la réponse, mais je pense qu'ils visent un public plus large que les fans de Google. Juste le nom Google hein, dedans, hein, finalement. Ils cherchent à attirer ces personnes-là qui se disent « Oh là là, je ne vais pas donner des informations à Google parce que j'ai envie que ma vie privée soit conservée. Et pourquoi je leur donnerai mes notes et mes petites pensées du jour ?» Et en faisant ça, ils diabolisent un petit peu leur application. Et je pense qu'elle a un grand avenir, et d'où la mise à jour actuelle pour une intégration sur iOS via la PWA, comme tu disais, Thomas, mais sur Android, sur Chrome OS, sur PC, elle marche sur Windows également, enfin bref, sur tous les appareils. Je pense qu'en oubliant le nom, les gens pourraient oublier qui la fabrique et juste voir le bonheur d'utiliser cette application. Bon, ouais, en tout cas, c'est ma façon de voir l'évolution juste du nom.
Ouais, c'est très possible.
C'est vrai que c'est une stratégie générale où, de plus en plus, ils enlèvent l'intitulé Google ou même Android d'ailleurs. J'étais en train de vérifier sur mon téléphone. C'est vrai que vous regardez vos applications, il n'y a quasiment plus aucune application qui s'appelle Android quelque chose ou Google quelque chose.
C'est ça. Donc, pour simplifier, puis voilà, puis se dédouaner un peu du terme Google qui fait peur. Enfin voilà, donc si on continue comme ça, on va aller directement sur le matériel parce qu'il faut qu'on avance, Thomas. Il te reste encore combien de temps avec nous? 10 minutes,
3 minutes.
Non, 3 minutes.
Je plaisante.
On va accélérer tout simplement. On va parler tout de suite de Galaxy Tab, la Cercambook Tab 10. De Thierry, qu'est-ce que tu en penses puisque tu l'utilises au quotidien depuis maintenant plusieurs mois?
En 3 mots.
Voilà.
Merci, bonne journée.
Non, je plaisante, j'ai encore.
Tout bien.
Alors, qu'est-ce que tu en penses, cette tablette 10 pouces, donc plutôt bien. Est-ce qu'on peut la comparer à une autre tablette qui est sortie, enfin qui a été présentée dernièrement, la Pixel Slate? Qu'en penses-tu? Quels sont tes retours d'utilisation et quelles sont tes préconisations pour les utilisateurs qui voudraient se lancer là-dedans?
Je le recommande parce qu'effectivement, c'est la première tablette à utiliser Chrome OS et non pas Android. Et un des principaux intérêts de cette tablette, c'est du coup d'avoir, par exemple, Chrome, mais en version PC et non pas en version mobile. Donc, ce qui sous-entend d'avoir également Chrome avec la possibilité d'installer des extensions.
C'est ça.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui... Donc ça, c'est pas mal du tout. Et ça me permet effectivement... donc, elle est compatible avec, bien entendu, les applications Android, etc., comme les Chromebooks, comme on les connaît habituellement. Il y a un stylet qui est intégré, qui est de très bonne qualité. Et en sachant, je suis en train de vérifier le tarif, mais que cette tablette, elle est à 330 euros. Donc, en rapport qualité-prix, je pense qu'aujourd'hui, c'est assez imbattable d'avoir donc une tablette avec un chargement en port USB type C qui fonctionne très bien, un stylet qui est intégré, un système Chrome OS. On va avouer qu'il y a des fois des petits bugs, des petits freezes ou bien comme ça qui arrivent. Mais je pense que c'est lié justement au fait que le produit soit neuf. Mais en tout cas, l'utilité que moi j'en ai, c'est typiquement dans mon salon, sur le canapé, à regarder les news, à regarder différents sites, etc. À le faire avec la tablette comme je faisais historiquement, mais à nouveau avec un vrai navigateur web, avec tous les avantages de Chrome OS, et pas seulement des limitations comme on peut avoir avec une tablette Android, ou toute personne utilisant une tablette Android et un Chromebook. C'est à quel point, dans certains cas, on est limité sur une tablette. Donc, en tout cas, c'est un produit que je recommande et qui, en tout cas, au moins, est disponible en France.
Effectivement, c'est bien. Et elle n'est pas trop lourde. Enfin, pour une tablette, moi, c'est ce qu'aujourd'hui, sur les Chromebooks, en fait, qui sont convertibles, je sais que j'ai du mal à l'utiliser en format tablette parce que, dans tous les cas, que ce soit du 11 pouces, 12 pouces, 13 pouces, je trouve ça trop lourd à l'utilisation sur une utilisation dite longue, entre guillemets. Et, comment tu la ressens ?
Alors là, déjà, elle est un peu plus petite puisqu'elle fait 9 pouces 7. Donc forcément, au niveau du poids, c'est plus faible. J'ai pris avec un support que j'ai payé 3 fois rien sur Amazon qui me permet de la mettre éventuellement en mode paysage. Donc si je veux regarder une vidéo ou bien comme ça. Pas le souci, puisque en me mettant assis sur le canapé et on va dire en repliant mes jambes, je cale la tablette à ce moment-là contre mes jambes. Donc, je n'ai pas le problème du support, du poids, de l'avoir à bout de bras ou ce genre de choses. Donc, en tout cas, moi, je n'ai pas le ressenti de poids ou bien comme ça. Je ne ressens pas cette problématique sur les quasiment 2 mois que j'utilise maintenant.
Parfait. Donc du coup, ouais, tu la recommandes à tout le monde, enfin à tous ceux qui cherchent un produit relativement pas cher.
Un produit relativement pas cher, une nouvelle tablette avec, et c'est important, des mises à jour garanties, puisque pareil, une tablette sous Android, bah, c'est fonction du constructeur d'accepter de faire les mises à jour. Là, comme on est sur du Chrome OS, il y a forcément toutes les dernières mises à jour qui vont être mises en place.
C'est vrai que ouais, c'est très bien. Ouais, moi, en tout cas, je la trouve très très belle comme tablette. Moi, perso, c'est quelque chose que je ne cacherai pas en utilisation, comme pourraient faire certains utilisateurs de produits un peu bas de gamme, un peu cheap, et puis qui a toutes les fonctionnalités bientôt en Chrome OS 70 et ainsi de suite. Et du coup, j'ai inversé l'ordre dans le texte parce que du coup, ça ouvre l'air. Peut-être, me disait Thomas dans l'oreillette, aux cromblettes, c'est ça ?
J'aurais mieux fait de me taire, je pense.
C'est quoi ce truc-là ? Une cromblette, c'est des blettes un peu chromées ?
Ouais, alors c'est un article de 9to5 Google qui m'a pointé vers ce truc-là. Donc en fait, en gros, en regardant sur chromium.org, qui est le site qui héberge en fait le code source et le système de versionnage du code source de Google Chrome, enfin de Chrome OS et de Google Chrome d'ailleurs. En fait, on voit qu'il y a un nouveau profil d'appareil qui fait tourner Chrome OS, et donc il s'agit de Chromeblet. Donc c'est comme Chrome et BLET, donc c'est la compression entre Chromebook ou Chrome et tablette. Donc pour l'instant, il y a un seul appareil qui est listé en tant que Chromebelt, c'est le HP X2, c'est ça? Donc c'est cette espèce de convertible tablette, un peu comme le Acer, sauf qu'en fait, il est vendu avec un clavier. Et je pense que c'est ça en fait la différence, c'est que l'écran, enfin c'est un ordinateur portable de la même façon qu'un Chromebook, mais l'écran se détache du clavier, à la différence de la tablette dont vient de parler Thierry, la tablette Acer, qui est une tablette qui a en plus un clavier. Voilà, j'espère que vous me suivez toujours. mais donc
moi,
voilà.
J'ai compris, hein, moi j'ai bien compris.
Ouais, donc c'est bon, ça va. C'est... Mais toi, t'es un expert, Nico, donc je me dis que ça devrait pas te poser de problème. Mais donc voilà, donc la Slate qui a été présentée il y a quelques semaines. J'ai vu beaucoup de gens parler de Slate. Donc Slate, c'est une ardoise en français. Chromebelt, il semblerait que ce soit un terme un petit peu similaire qui va entrer en compétition avec Slate. Donc Chromebelt, Slate, j'ai envie de dire, choisissez votre camp.
Je précise juste qu'avec la Tab 10, il n'y a pas, par contre, pour pas qu'il y ait de mésentente, il n'y a pas de clavier fourni à la base.
Voilà, c'est ça. C'est ce que je... Ah ouais, d'accord. Allez, le clavier n'est pas fourni.
Plus,
ouais.
Si on en veut un.
Le clavier n'est pas fourni. On peut en acheter.
Ouais, j'aime pas trop écrire avec un clavier tactile parce que je trouve pas ça super, super très intéressant en fait. Mais bon, c'est bien. Si on continue dans l'ère des nouveautés, on a entrevu une nouvelle Chromebase. Tu peux me redire ce que c'est qu'une Chromebase et qu'est-ce qu'on sait déjà de la prochaine ?
Ah là là, la colle. Alors, une Chromebase. Donc en fait, une Chromebase, c'est en gros un appareil de la famille des Chromebooks. Sauf que ça n'a pas le format d'un ordinateur portable, ça n'a pas le format d'une tablette. C'est différent des Chromebelts, comme je viens de parler, qui sont des tablettes avec le clavier intégré. Les Chromebase, l'idée c'est d'avoir un ordinateur tout en un en fait. Donc vous avez l'écran, vous avez le clavier. Alors, bon, le clavier en général est quand même séparé de l'écran, mais vous avez rien à connecter de supplémentaire. La fonction ordinateur entre guillemets, l'unité centrale pour le dire avec des mots qui datent d'une décennie, l'unité centrale est directement intégrée à l'écran. Donc voilà. Donc si vous
ça avez... ressemble à un iMac.
C'est exactement ce que j'allais dire pour citer la concurrence. Donc voilà, si vous avez vu ce que c'était un iMac, donc cette espèce d'écran tout intégré avec l'ordinateur intégré à l'intérieur. Voilà, une Chromebase, c'est ça. Donc c'était pas forcément, ça a jamais été forcément extrêmement populaire, mais on va dire qu'on en voyait quand même, beaucoup il y a 3 ans on va dire. Et ça a un petit peu disparu des radars, mais donc il semblerait que y ait des rumeurs et puis des choses qui traînent encore une fois sur le repository de Chromium qui indique qu'il y a une nouvelle Chromebase en préparation. Donc voilà, est-ce que on est à une nouvelle ère pour le renouveau des Chromebases à voir. J'y crois pas des masses, mais on va peut-être voir de nouveaux appareils apparaître ici et là.
Ouais. Moi, ce que j'aime bien dans les Chromebases, c'est la taille des écrans en fait.
Ouais, c'est souvent des grands écrans, ouais.
Gros, si t'as pas besoin de mobilité, je pense que c'est un bon compromis. Et puis c'est pas si cher que ça. Enfin, habituellement, celle-ci, on sait pas, mais c'est pas si cher que ça habituellement.
Ouais, c'est vrai.
Donc, ouais. On va finir, on va pas tarder à finir parce qu'il faut qu'on parte. Moi, chez moi, ça y est, il fait nuit noire. Hein. Donc, du coup, on va parler pour terminer de quelque chose qui est très, très rassurant, c'est la sécurité. Google a à cœur depuis très longtemps de sécuriser ses systèmes d'exploitation, ses utilisateurs, et ils viennent de nous proposer à tout le monde une mise à jour des extensions, enfin de la façon de travailler avec les extensions sur le navigateur web Chrome, en proposant la possibilité de bloquer l'accès au site internet sur les extensions. Je ne sais pas si j'ai été clair, j'ai l'impression d'avoir été très très brouillon sur cette histoire-là.
Disons que j'ai lu la news avant, donc je comprends. Mais en gros, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, on dit ça, bon, alors les gens qui ont entendu parler de ce qui s'est passé avec Google Plus il y a quelques semaines doivent être en train de s'étouffer. C'est vrai que Google a, comme tout le monde, de temps à autre, des problèmes de sécurité. Malgré tout, la sécurité, c'est un peu, comment dire, c'est pas noir ou blanc, hein. Il y a plusieurs niveaux de complexité. Et c'est vrai que de temps en temps, il y a des scandales un peu partout qui arrivent en ce moment, hein, et ça va pas s'arrêter, à mon avis. Mais malgré tout, il y a quand même un effort de la part de Google pour s'assurer que les données des utilisateurs soient contrôlées le plus possible, ou en tout cas, la vie privée est très très importante. Et donc, ils sont en train de resserrer un petit peu la vis à plein de niveaux. Je pourrais parler de ce qui se passe du côté d'Android. Hein. Il y a tout un tas de permissions qui sont en train de disparaître ou qui vont être de plus en plus difficiles à obtenir pour les développeurs d'applications tierces. Mais pour rester sur le domaine des Chromebooks qui nous intéresse aujourd'hui, comme tu le dis, Nico, en fait, aujourd'hui, une extension Chrome pouvait faire à peu près ce qu'elle voulait, sans forcément tenir au courant l'utilisateur. Et donc, par ça, je veux dire, par exemple, savoir sur quel site vous allez, savoir potentiellement voir quel mot de passe vous tapez, etc., etc. Et donc, bah, ça marche un temps, mais c'est vrai que si Google a à cœur la protection de ses utilisateurs et la vie privée, il faut forcément qu'ils mettent un petit peu le holà, et donc c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a une restriction des accès et une extension Chrome peut plus faire autant de choses qu'elle pouvait le faire avant.
Maintenant, en tant qu'utilisateur, on a le choix de lui donner ou non l'accès à ce qu'on voit sur notre navigateur web, soit une seule page, soit toutes les pages internet, soit limiter complètement la visualisation de son navigateur totalement. Donc, au choix de l'utilisateur, vraiment de faire ce qu'il veut avec cette extension et de lui donner ou pas accès à ses données. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, non ? Qu'est-ce que tu en penses, Thomas ? On a parlé à peu près de tout ?
Ouais, on pourrait encore parler des heures, mais je pense que c'est un bon résumé de l'actualité du moment. Thierry, tu voulais dire quelque chose ?
Je pense qu'effectivement, on a fait le tour. Merci pour votre invitation.
Merci à toi d'avoir répondu présent, en tout cas. On était très heureux de t'avoir avec nous. Ça fait deux fois, hein, déjà. Attention, hein, jamais 203, fais gaffe.
C'est quand tu veux.
Avec plaisir. Comme d'habitude, je vais vous remercier tous autant que vous êtes, les auditeurs qui êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et ça nous fait vraiment plaisir de voir les chiffres, la courbe monter progressivement, telle une action en bourse. Je vous remercie, sauf qu'on gagne un peu moins d'argent. Et d'ailleurs, pour la transition, n'oubliez pas, le podcast est subventionné uniquement par vos dons, par les Tipeee que vous pouvez nous faire régulièrement, mensuellement, une fois, de temps en temps, nous donner un petit euro par-ci, par-là. On est trois, un euro pour un café pour trois. Voilà, ça va faire showtime. Il y en a un qui aura la tasse, l'autre le café et l'autre le sucre. Ou alors on se débrouillera, il y en a, on prendra un verre d'eau. Bref, mais bon, voilà, n'hésitez pas, vous pouvez nous faire un petit don sur les Tipeee pour nous remercier ou pour nous encourager tout simplement. Ou au pire, hein, si vous ne pouvez pas nous donner un euro, hein, c'est pas très grave, vous pouvez partager le podcast au travers les différents sites communautaires à votre entourage proche ou on sait jamais autour d'une machine à café, un de vos collaborateurs, un de vos collègues qui dit t'as entendu parler des nouveaux ordinateurs, bah oui, Chrome OS, écoute le CKB Show, et bah ça nous fera plaisir de lui parler, de lui chuchoter dans l'oreille tous les bienfaits de nos Chromebooks et de Chrome OS. Je te remercie, Thomas, d'avoir été encore une fois avec moi. Je te remercie, Thierry, également, d'avoir participé à ce nouvel épisode, à ce nouveau format à 3. Je vous laisse la parole de la fin, comme d'habitude, parce que je n'aime pas les au revoir. Alors, du coup, je vous laisse les faire. Allez, ciao, bye bye.
Ciao, à la prochaine. Merci, Thierry, de ta participation.
Merci à vous, à bientôt.
Allez, ciao. We'll be right back.